Ce soir, nous accueillons M. Gérard Noiriel, qui est directeur d'études à l'École normale, des hautes études en sciences sociales. Il est co-directeur de la formation doctorale sciences sociales. Il est membre du comité de rédaction et co-fondateur de la revue Genèse sciences sociales en histoire. Et il a publié de nombreux ouvrages, dont ceux que je vais citer qui tournent autour du sujet qu'il aborde ce soir. Donc, Le Creuset français, Histoire de l'immigration, 19e et 20e siècle, dans la collection L'Univers historique, paru au Seuil en 88. Un autre qui s'intitule Population, immigration et identité nationale en France, au 19e et 20e siècle, dans la collection Carré Histoire, paru chez Hachette en 92. Et enfin, récemment, Les origines républicaines de Vichy, paru chez Hachette en 1999. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité à participer à cette belle aventure qui est l'Université de tous les savoirs. Et comme vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, la question nationale fait aujourd'hui la une de l'actualité. L'Allemagne défend-elle une conception ethnique de la nation, comme l'affirmait récemment le ministre français de l'Intérieur? Qu'est-ce que l'ivoirité dont se réclame aujourd'hui la junte au pouvoir en Côte d'Ivoire? La Commission européenne a-t-elle raison de critiquer le protectionnisme légal de la France, en vertu duquel les étrangers non communautaires sont exclus de 7 millions d'emplois? Ces questions, tirées de l'actualité la plus immédiate, montrent que la réflexion sur la nation, sous des formes très diverses, est toujours au cœur des préoccupations de notre temps. Certes, la recherche historique n'a pas pour fonction de répondre directement aux interrogations des acteurs du monde politique. Néanmoins, je suis persuadé que dans ce domaine aussi, les progrès de la connaissance peuvent permettre aux citoyens d'enrichir leur propre jugement. C'est en tout cas ce dont j'espère vous convaincre dans cette conférence, en montrant comment les historiens abordent aujourd'hui la question nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens toutefois à préciser que, conformément à l'intitulé de cette leçon, je présenterai une réflexion globale sur la construction historique de la nation. Pour les raisons que je vais évoquer dans un instant, je n'ai pas voulu centrer mon propos sur le cas français, même si c'est celui que je connais le mieux. La conséquence de ce choix, c'est que je ne pourrai pas aujourd'hui insister longuement sur les problèmes qui ont été au cœur de l'actualité ces dernières années, concernant par exemple le modèle républicain d'intégration des immigrants, la place des cultures régionales dans l'État-nation, etc. Mais nous pourrons naturellement aborder ces différents points pendant notre discussion. Dans la première partie de cet exposé, je voudrais souligner qu'en dépit des évolutions en cours, la nation n'est pas encore devenue un thème de recherche comme les autres. Objet sacré qui résiste aux entreprises critiques, elle oppose le plus souvent les pour et les contre, là où la logique scientifique voudrait qu'on s'efforce de distinguer le vrai du faux. La place considérable qu'occupent ici les jugements de valeur est un héritage du passé dont l'historien doit tenir compte. C'est sous l'étendard de la nation que les grands combats pour la démocratie ont été menés depuis deux siècles. Mais l'exaltation nationale a aussi nourri les dérives xénophobes, leur cortège de massacres et d'exterminations. Ce passé conflictuel et douloureux continue à peser de tout son poids dans le débat public sur la nation. Cette charge émotionnelle, l'historien doit évidemment la maîtriser s'il veut satisfaire aux exigences de sa fonction. Mais le rôle essentiel que l'histoire a joué dans la formation des nations complique singulièrement sa tâche. Dans le cas français, comme vous le savez, les plus grands historiens républicains, de Jules Michelet jusqu'à Fernand Braudel, ont passionnément cherché à percer les secrets de l'identité de la France. Mais en inscrivant leur réflexion sur la nation dans une perspective identitaire, ils ont eu trop souvent tendance, à mon sens, à confondre les enjeux de mémoire et les enjeux de savoir. Il me semble que, là aussi, le temps est venu de réclamer un droit d'inventaire. Il faut d'ailleurs préciser que cette réflexion critique est déjà bien amorcée. Depuis une quinzaine d'années, la recherche sur la question nationale a été fortement renouvelée, grâce à des travaux menés dans une perspective interdisciplinaire, ouverte sur les différentes sciences sociales, mais aussi sur le droit et la philosophie politique. Deux facteurs principaux, selon moi, expliquent ce regain d'intérêt. Pour beaucoup d'entre nous, la réapparition de l'extrême droite dans les pays démocratiques de l'Europe, et notamment en France, et la résurgence des conflits nationalistes alimentés par la logique meurtrière dite d'épuration ethnique, ont constitué un véritable choc qui a provoqué un regain d'intérêt pour une question que l'on croyait dépassée. En second lieu, ce chantier d'études a été également stimulé par l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs n'ayant pas connu directement la guerre et, de ce fait, plus critiques à l'égard de la nation. Au niveau méthodologique, le nouveau regard que les historiens portent aujourd'hui sur les phénomènes nationaux présente trois grandes caractéristiques que l'on rencontre de façon séparée ou combinée dans beaucoup de travaux récents. La première concerne l'autonomie de la réflexion savante par rapport aux enjeux politiques. Plutôt que de dénoncer ou de justifier la nation, il est préférable d'essayer de mieux comprendre les relations complexes que tout historien entretient avec l'État-nation auquel il appartient, de façon à ne plus confondre le national et l'universel, travers que j'oserais qualifier de « typiquement français », entre guillemets. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs ne sont plus nationalistes, mais nous sommes tous, malgré tout, tributaires d'une langue et d'une culture nationale que nous avons intériorisée au cours de notre éducation et qui continue d'orienter nos perceptions et notre vision du monde. Affronter cette tension, au lieu de l'ignorer, constitue, à mes yeux, une exigence méthodologique incontournable pour toute réflexion critique sur la question nationale. Le deuxième trait qui caractérise la recherche historique actuelle sur la nation, même si sur ce point il reste encore beaucoup à faire en France, c'est la place croissante qu'occupe la démarche comparatiste. Dans la logique identitaire, l'historien ne voit que l'objet aimé. Il incline à en exagérer les mérites et les singularités. Mais avant de parler d'exception française ou de Sonderweg allemand, il convient de replacer chaque étude de cas dans un ensemble plus vaste, de façon à mettre au jour les différences et les points communs. Il faut tenir compte des interactions, des transferts, des échanges, car aucune pensée, aucun système social ou politique ne se construit en vase clos. Enfin, et c'est le troisième aspect de ce renouveau, la recherche historique sur les phénomènes nationaux est aujourd'hui résolument constructiviste. Notre problème n'est plus d'alimenter le roman des origines nationales, ni d'envisager la nation comme s'il s'agissait d'une personne. Cette vision réifiée, organiciste, c'est la partie dépassée de l'héritage de Michelet. Derrière le personnage de la France, nous voulons découvrir les individus en chair et en os pour mieux comprendre pourquoi la nation a été au cœur des luttes sociales et politiques de l'histoire contemporaine, comment et jusqu'à quel point l'idée nationale est parvenue à structurer peu à peu de nouvelles formes de vie sociale et de nouvelles identités collectives. Ma deuxième partie sera centrée sur la diversité des voies par lesquelles les nations actuelles ont conquis leur indépendance. Mais auparavant, je voudrais m'arrêter un instant sur la définition du mot « nation ». Par sa racine latine, ce terme désigne une communauté dont les membres ont une même origine. Mais c'est seulement au cours du XVIIIe siècle que le mot commence à acquérir son sens moderne, c'est-à-dire politique. Les luttes d'indépendance en Amérique, la Révolution française, mais aussi la résistance des populations victimes de l'occupation des troupes napoléoniennes, tels sont les événements fondateurs à l'ombre desquels, entre les années 1770 et les années 1810, se fixe la définition toujours en vigueur de la nation. Deux points doivent surtout être retenus. D'abord, il faut insister sur la relation étroite qui est établie à partir de cette époque entre nation et citoyenneté. En 1789, dans sa fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-État ?», l'abbé Sieyès définit la nation comme, je cite, « un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature ». Pour lui, la nation, c'est donc le tiers-État, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas de privilèges et qui forment de ce fait une communauté d'égaux. Mais la nation, c'est aussi un ensemble d'hommes libres qui décident eux-mêmes, en toute indépendance, de leur vie commune. Enfin, pour Sieyès, la nation, une et indivisible, c'est la volonté collective d'exister comme peuple souverain. Cette définition républicaine est toutefois incomplète, car elle ne dit rien des critères permettant de distinguer les nations des unes des autres. Cette question, secondaire en 1789, prend toute son importance au moment où les troupes révolutionnaires partent à la conquête de l'Europe. Très rapidement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sert à légitimer l'occupation militaire, les violences, les pillages. Du coup, aux yeux des populations victimes de ces exactions, les représentants du peuple français ne sont que des oppresseurs, de nouveaux barbares. Des voix s'élèvent alors appelant à la résistance contre cette domination impérialiste, exaltant les traditions, la culture et l'histoire des peuples vaincus. Le rôle important joué par les facteurs culturels dans cette mobilisation s'explique en bonne partie par le fait que, dès le milieu du XVIIIe siècle, d'abord en Écosse, puis en Suisse, en Allemagne et par contagion dans la plupart des pays d'Europe, s'est développé un mouvement de contestation de l'hégémonie culturelle française, le classicisme et ses références grecques et romaines. Mouvement qui a conduit, avant même la révolution de 1789, à réhabiliter les sources « barbares » entre guillemets, de la culture des différentes nations de l'Europe. C'est dans ce contexte qu'est élaboré, principalement en Allemagne, ce que l'on peut appeler la dimension identitaire de la nation. Pour démontrer la vitalité et la pérennité du peuple allemand à travers les âges, des philosophes comme Herder et Fichte mobilisent des arguments d'ordre historique, linguistique, ethnographique, mais ils insistent également sur la dimension subjective de l'identité nationale. L'esprit du peuple, Volksgeist, est un principe spirituel qui rend légitime les aspirations de la nation allemande à exister politiquement au même titre que la nation française. Pour nommer tous les éléments identitaires qui constituent la germanité, sans recourir au lexique français de la nation, Friedrich Jahn met à profit les ressources de la langue allemande et forge un néologisme, Volkstum, fondé donc sur le terme Volk, peuple en allemand. Ainsi prend naissance ce qu'on appelle le principe des nationalités. Mais à l'encontre des préjugés franco-français, si fréquents à l'égard de la pensée allemande, il faut éviter ici les anachronismes. Un grand nombre d'écrivains, de philosophes et d'érudits engagés dans le combat pour le Volkstum prendront toute leur part dans les luttes anti-aristocratiques et participeront à la révolution de 1848. Mais l'échec du printemps des peuples sonne le glas des espérances démocratiques dans cette partie de l'Europe pour pratiquement un siècle. Ajoutons que ce mouvement de réhabilitation des cultures nationales est au départ largement cosmopolite. Les frères Grimm, par exemple, ne se contentent pas de recueillir les contes et les traditions populaires de langue allemande. Ils tissent des liens avec tous ceux qui, en Europe, développent des projets du même type. Au lieu d'opposer pensée allemande et pensée française, il est donc préférable de mettre l'accent sur les échanges, la circulation des références. Comme on l'a vu plus haut, la réflexion des philosophes allemands a été profondément marquée par le principe de souveraineté nationale développé au moment de la Révolution française. Inversement, sous la Restauration, les écrivains et les historiens, séduits par le romantisme allemand, s'approprient la notion de Volkstum et pour la traduire en français, ils forgent à leur tour un nouveau néologisme appelé à un bel avenir, c'est le mot « nationalité » qui fait irruption à ce moment-là dans le vocabulaire français. Dans la foulée, Michelet enrichit la définition républicaine de la nation en y ajoutant des critères identitaires. La France est une personne née d'une fusion des races primitives et qui a pris conscience d'elle-même grâce à la Révolution. Il faut, je crois, avoir à l'esprit ces deux facettes de la définition de la nation, la citoyenneté et l'identité, pour comprendre pourquoi la défense du principe des nationalités a débouché très rapidement sur des situations politiques explosives. Dans la partie orientale de l'Europe, et dans les Balkans notamment, l'enchevêtrement des langues, des coutumes, des religions interdisait la constitution d'États nationaux fondés sur les critères nationalitaires. Grâce aux nombreuses études publiées récemment sur ces questions, nous comprenons mieux aujourd'hui la logique de l'engrenage nationaliste. Prenons l'exemple des critères linguistiques. Avant le XIXe siècle, la notion de langue nationale n'avait guère de sens. Dans l'Europe chrétienne, le latin était la langue officielle, commune à tous les lettrés. Au XVIIIe siècle, c'est le français de Versailles qui fait office de langue internationale. Mais si le français est parlé à la cour du tsar ou du roi de Prusse, la majorité des sujets du royaume de France l'ignorent encore. De même, en Bohême, ce sont les paysans qui parlent le tchèque, la noblesse s'exprimant en allemand. Au début du XIXe siècle, l'engouement pour les traditions populaires pousse un grand nombre d'érudits, de grammairiens et de philologues à fixer par écrit et à codifier des langages populaires dont le rayonnement, bien souvent, ne dépassait guère le cadre régional. C'est ainsi qu'entre 1800 et 1850, trois langues écrites se forment dans le nord des Balkans, le slovène, le serbo-croate et le bulgare. Au cours de la même période, d'autres idiomes, par exemple l'ukrainien et le tchèque, je pourrais en citer beaucoup d'autres, accèdent au statut de langue écrite nationale, entre guillemets. Dans le même temps, les historiens s'emploient à fabriquer une histoire de ces peuples en démontrant, entre guillemets, l'ancienneté de leurs origines, la continuité de leur culture. Par exemple, la lutte de la nation grecque contre le joug ottoman suscite un immense élan de solidarité à travers toute l'Europe. Les historiens se mobilisent pour prouver que les invasions slaves des 7e et 8e siècles ne constituent pas une rupture historique. Ils affirment que ces invasions, loin d'avoir entraîné la slavisation des Hellènes, ont provoqué à l'inverse l'hellénisation des Slaves. Les Grecs du XIXe siècle sont donc rassurés. Ils sont bien les descendants d'Homère. Très vite, ce type d'argument devient un enjeu essentiel dans les luttes qui opposent les nationalités entre elles. Les arguments historiques ou ethno-linguistiques sont mobilisés de façon contradictoire pour délimiter les frontières des territoires et des populations que les combattants comptent placer sous la coupe de l'État qu'ils appellent de leur vœu. Ainsi débutent les luttes ethniques qui mettront à feu et à sang l'Europe avant de se diffuser dans d'autres parties du monde. Il faut toutefois signaler que ces critères identitaires n'ont pas toujours joué un rôle déterminant dans les luttes d'indépendance nationale. En Amérique, par exemple, la rupture avec les métropoles européennes n'a pas été légitimée par le principe des nationalités. Bien souvent, la langue du pouvoir colonial, l'anglais, l'espagnol, le portugais, a été conservée comme langue nationale par les dirigeants des nouveaux États. De même, dans les luttes anticolonialistes du XXe siècle, les références identitaires ont perdu de leur importance au profit des arguments socio-économiques élaborés par le marxisme-léninisme. Il faut aussi rappeler que tous ces conflits ethniques ne s'expliquent pas seulement par des raisons propres aux régions concernées. Dès le début du XIXe siècle, comme nous venons de le voir, ce sont les élites des pays européens les plus développés qui ont forgé la définition identitaire de la nation. Si les militants de la cause nationale ont mobilisé avec autant d'énergie les arguments historiques ou ethno-linguistiques qu'on leur reproche souvent aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils devaient en passer par là pour que leur cause soit considérée comme légitime par les grandes puissances. Faut-il rappeler qu'une nation ne devient pleinement souveraine que si son existence est reconnue officiellement par le droit international? Au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous l'impulsion du président Wilson, le principe des nationalités prend une importance encore plus grande qu'au XIXe siècle dans le jeu diplomatique. C'est en vertu de ce principe que la Société des Nations tente de protéger les droits des minorités, tout en organisant des déplacements massifs de populations afin d'homogénéiser sur le plan ethnico-linguistique les nouveaux États. Par exemple, le traité gréco-turc de Lausanne, signé le 30 janvier 1923, oblige la population grecque, entre guillemets, résidant sur le territoire de la Turquie, à quitter le pays pour émigrer en Grèce et réciproquement. Inutile de préciser que ces mesures sont décidées sans tenir aucun compte de la volonté des personnes. Dans une formule quelque peu provocatrice, le grand historien britannique Eric Hobsbawm a commenté ces pratiques en affirmant que, finalement, Hitler avait été le partisan le plus radical des principes wilsoniens, rapatriant de force sur le territoire allemand des millions de Volksdeutsch qui ne vivaient pas sur la terre de leurs ancêtres avant d'éliminer les Juifs. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, cette logique sera poursuivie, puisque des millions de personnes d'origine allemande seront expulsées de Tchécoslovaquie, de Russie, de Pologne, etc. D'autres facteurs ont contribué à la diffusion du principe des nationalités à travers le monde. Par exemple, en Chine, c'est par l'intermédiaire du Parti communiste que la vision européenne de la nation est introduite entre les années 30 et les années 50. Plus précisément, les Chinois héritent de la définition élaborée par Staline, que les Soviétiques avaient eux-mêmes empruntée à Engels. Cette approche du fait national se veut objective. La nation, pour les marxistes, la version stalinienne en tout cas, est vue comme une communauté stable, historiquement constituée, et possédant une unité économique, linguistique et territoriale. Cette définition s'inscrit dans une vision évolutionniste de l'histoire. Pour Staline, la nation est une forme d'organisation sociale plus évoluée que le clan, la tribu ou la nationalité. Dans la Chine communiste, cette définition va devenir pratiquement officielle. Le terme de nation, Minzu en chinois, acquiert ainsi un grand prestige. Mais en même temps, lorsque l'Institut d'études des nationalités entreprend à la fin des années 50 de publier une histoire des 54 ethnies officiellement reconnues sur le territoire chinois, une vive polémique prend forme. Des historiens appartenant au groupe ethnique le plus répandu en Chine, les Han, affirment que ce peuple possédait dès l'Antiquité les quatre caractéristiques permettant de le définir comme une nation. Ce qui provoque bien sûr des protestations des autres groupes ethniques ravalés au rang de nationalité, Buzhou en Chine. Les tensions sont telles que le pouvoir, les tensions sont telles que le pouvoir craint qu'elles ne mettent en péril la fragile unité du pays. Du coup, le bureau des traductions du comité central du Parti communiste s'en mêle. Les intellectuels du parti et les historiens se livrent à une exégèse serrée des textes russes et allemands relatifs à la nation. Et finalement, on décide que toutes les communautés ethniques de Chine pourront se considérer comme des nations. Au cours des années 80, une nouvelle génération d'historiens chinois, moins inféodés peut-être au Parti communiste que la précédente, découvre qu'en fait, le terme Minzu, que l'on croyait très ancien, n'est apparu dans la langue chinoise qu'à la fin du XIXe siècle, importé du Japon, par où ont transité un grand nombre d'innovations en provenance d'Europe, au moment où le pays s'est lancé dans la modernisation. Cet exemple me paraît peu connu, disons, des historiens français, me paraît particulièrement intéressant parce qu'il illustre la diversité des voies par lesquelles ces concepts, nés pour une grande part en Europe, se sont diffusés dans le monde entier. Mais il montre bien aussi le caractère universel des enjeux politiques liés à la nation. Parmi les nouvelles recherches qui concernent la question nationale, il faut également insister sur celles qui s'intéressent aux aspects économiques et sociaux du phénomène, aspects qui avaient, dans le passé, été, je crois, singulièrement oubliés. Ces travaux ont montré que l'une des grandes particularités de la nation moderne, comparée à d'autres formes de communauté sociale, c'est le fait que la plupart de ses membres ne se connaissent pas et communiquent donc entre eux à distance. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi l'émergence de la nation est un phénomène contemporain de la révolution industrielle. Pour pouvoir communiquer à distance, en effet, il faut que l'usage de l'écriture soit largement répandu, que de nouveaux moyens de transport, utilisant la machine à vapeur et les autres progrès techniques ultérieurs, mettent fin à l'isolement des communautés villageoises. Le progrès des liaisons à distance s'accompagne d'un développement massif des professions qui nécessitent une maîtrise de la culture écrite. Ces nouveaux clercs, issus de la classe moyenne, prospèrent au détriment de l'aristocratie. Dans l'Empire austro-hongrois, par exemple, au début du siècle, pratiquement tous les fonctionnaires de haut rang appartenaient à la noblesse. En 1829, 27% d'entre eux sont issus des classes moyennes et la proportion atteint 55% en 1878. Cette bourgeoisie intellectuelle soutient le principe des nationalités car c'est un argument efficace dans la lutte qu'il oppose à la noblesse. C'est pourquoi ce milieu social va fournir les gros bataillons des adhérents affiliés aux organisations combattant pour l'indépendance nationale, alors que les paysans et les ouvriers au nom desquels ces clercs parlent et agissent sont très peu nombreux. En poussant l'analyse, on peut ajouter que les dirigeants nationalistes, que ce soit dans l'Europe du XIXe siècle ou par la suite dans le monde colonial, sont le plus souvent bilingues. Maîtrisant la culture dominante, ils sont restés en contact avec leur milieu d'origine. Cette position particulière les incite à reprendre à leur compte des raisonnements et des arguments qui ont été fabriqués par le pouvoir qu'ils combattent pour les retourner contre lui. Par exemple, les militants en lutte contre le colonialisme français se sont appropriés les idéaux de 1789 pour justifier leur propre cause politique. On constate aussi que, bien souvent, les identités ethniques défendues par les leaders indépendantistes sont des inventions forgées antérieurement par les administrations coloniales au détriment des réalités locales qu'elles ont contribué à détruire. En dépit de son importance, et j'en arrive à ma troisième partie, l'histoire du principe des nationalités ne doit pas nous faire oublier que le processus de construction historique d'une nation ne s'arrête pas au moment où cette dernière accède à la souveraineté. L'indépendance signifie que la nouvelle nation dispose d'un État propre, grâce auquel ses dirigeants peuvent imposer leur volonté à toute la population vivant sur le territoire qu'ils contrôlent. Pour l'histoire de la nation, c'est alors une nouvelle période qui commence. Cette phase, que j'appelle la phase de nationalisation de la société, se situe dans le prolongement de la précédente. Devenus des hommes d'État, les militants de la cause nationale poursuivent leur effort afin de faire triompher les principes pour lesquels ils ont combattu auparavant. On retrouve ici les deux types de pratiques politiques que j'ai évoquées plus haut. D'une part, pour concrétiser l'idée de la souveraineté du peuple, le nouveau régime doit impulser un processus de démocratisation de la société par intégration des classes populaires dans l'État-nation. Cela se marque le plus souvent par des mesures débouchant immédiatement ou à terme sur l'adoption du suffrage universel masculin, sur aussi des lois qui visent à défendre les intérêts économiques et sociaux des citoyens. D'autre part, les arguments historiques, religieux, et ethno-linguistiques, qui ont servi auparavant à justifier la lutte d'indépendance, deviennent désormais des normes identitaires appliquées à l'ensemble de la population résidant sur le territoire national. Dans la plupart des cas, ces deux dimensions, principe de citoyenneté et principe d'identité, se conjuguent, car l'intégration du peuple à la vie politique nécessite un certain degré d'homogénéité culturelle. Les individus qui souhaitent participer à la vie publique doivent parler la même langue et partager un minimum de références communes. Cette exigence est renforcée par le fait qu'après avoir obtenu son indépendance, une nation doit défendre son existence contre la menace que font peser sur elle ses anciens ennemis ou les nations concurrentes. La défense de la patrie constitue dès lors une dimension fondamentale dans le processus d'intégration du peuple au sein de l'État-nation. Il faut que les citoyens partagent le même sentiment d'appartenance, car en cas de guerre, ils devront être prêts à sacrifier leur vie pour leur communauté. Tous ces facteurs permettent de comprendre pourquoi l'effort d'homogénéisation nationale est la tâche primordiale à laquelle se sont attelés la plupart des États-nations. Nous voyons clairement ici ce qui différencie un État-nation d'un État monarchique. La légitimité du pouvoir royal reposait sur la croyance qu'il existe une différence de nature entre le roi, de droit divin, comme on disait à l'époque, et ses sujets. C'est pourquoi l'unité de la foi était un dogme que nul ne pouvait transgresser. Mais étant donné que la noblesse et le peuple étaient vus comme deux races, comme on disait déjà à l'époque, ou deux espèces humaines totalement différentes, l'État monarchique ne cherchait nullement à assimiler ses sujets au rebours de l'État national. Les conséquences sociales de cette logique politique apparaissent bien quand on examine, par exemple, comme cela a été fait dans un excellent ouvrage publié aux éditions Belin, l'histoire du Roussillon en longue durée. Longtemps après le rattachement de cette région à la France, par le traité des Pyrénées en 1659, les habitants continuent à parler le même dialecte des deux côtés de la frontière. Jusqu'au XIXe siècle, Celle-ci est d'ailleurs encore très floue et mal délimitée. C'est seulement sous la Troisième République que le processus d'intégration et d'assimilation qui va transformer les Cerdans en Français dits « de souche » entre guillemets, prend toute son ampleur. Phénomène majeur de l'histoire de l'Europe à partir des années 1880, la nationalisation de la société est à mes yeux un processus universel, même s'il a pris des formes extrêmement variées selon les lieux et les contextes. La principale caractéristique de ce phénomène tient au fait que les préoccupations concernant la nation, jusque-là circonscrites dans le milieu des élites intellectuelles, deviennent des préoccupations d'État. Pour donner une idée de l'importance du problème, je privilégierai ici deux exemples, la France et l'Allemagne. Comme on l'a vu plus haut dans ce dernier pays, ce sont les philosophes et les écrivains qui ont monopolisé la réflexion sur la nation. Mais au XIXe siècle, l'aristocratie allemande maintenait cette bourgeoisie intellectuelle à l'écart du pouvoir. Dans le même temps, des réformateurs issus de cette noblesse, notamment en Prusse, entreprennent de rationaliser et de développer l'État prussien en s'appuyant sur les nouvelles possibilités que fournissent la diffusion de la culture écrite et le progrès des transports. C'est grâce à leur action que l'unité allemande est finalement réalisée en 1870. Inutile d'insister ici sur le fait que ces hommes d'État n'agissent pas au nom du principe des nationalités. Ils cherchent au contraire à conforter la logique dynastique. Bismarck, par exemple, a longtemps été très méfiant vis-à-vis du nationalisme, car les discours sur la souveraineté du peuple sont vus comme une menace pour le pouvoir impérial. Dans un premier temps, le caractère pluriethnique du nouveau Reich, qui compte, comme vous le savez, une forte composante polonaise, évaluée à 2,5 millions de personnes, mais aussi une minorité danoise, alsacienne, etc. Ce caractère pluriethnique, comme on dit aujourd'hui, ne préoccupait guère les dirigeants. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idéologie aristocratique n'est pas fondée sur une logique assimilatrice. Néanmoins, la popularité croissante du principe des nationalités radicalise des luttes politiques qui constituent une double menace pour les empires. Sur le plan social, les revendications nationales sont portées par les groupes, la bourgeoisie, bien sûr, mais aussi le mouvement ouvrier naissant, qui exige une démocratisation des institutions. Sur le plan identitaire, l'agitation des minorités fait peser le risque d'un éclatement de l'État allemand, alors même que celui-ci vient à peine de voir le jour. C'est dans ce contexte qu'à partir des années 1880, le pouvoir impérial commence à s'approprier les principes nationaux qu'il avait combattus auparavant pour les mettre au service de sa politique réactionnaire. Dès lors, la nationalisation de la société allemande s'accélère, ce qui entraîne l'adoption de deux types de mesures. D'une part, pour faire face aux défis de l'industrialisation, Bismarck favorise un début d'intégration des classes populaires en imposant une législation sociale sans équivalent dans les autres pays d'Europe. D'autre part, le Reich se lance dans une politique de germanisation forcée de ses minorités, qui frappe notamment la population d'origine polonaise. Mais à la même époque, les empires russes, austro-hongrois, ottomans, basculent eux aussi dans cette logique nationaliste. La violence du pouvoir d'État s'acharne alors sur tous ceux qui ne sont pas conformes aux critères d'excellence nationale, les Juifs, les Arméniens et tous les peuples qui seront victimes par la suite du nationalisme. Si l'on se tourne à présent vers la France, on constate que c'est également au cours des dernières décennies du XIXe siècle que l'État devient véritablement national. Alors que sous le Second Empire, le peuple était tenu à l'écart de la vie politique, l'intégration des classes populaires est au cœur de la stratégie développée par la Troisième République, comme le prouve le développement de la législation sociale et la démocratisation de la vie politique. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les mesures visant à homogénéiser la société française, même si ces mesures, bien sûr, n'ont rien à voir avec la politique répressive développée par les empires. La principale fonction de l'école républicaine,
c'est de fabriquer des citoyens français partageant une culture nationale commune et unie par un même sentiment d'appartenance à la patrie. Ce point est suffisamment connu aujourd'hui, je n'y insiste pas. J'aimerais en revanche souligner que les rapports de plus en plus étroits noués entre la nation et l'État ont eu aussi pour conséquence de modifier profondément le discours des historiens sur la nation. La polémique entre les historiens allemands et français à propos de l'Alsace-Lorraine est à cet égard, à mes yeux, extrêmement significative. Alors qu'au début du XIXe siècle, les historiens qui défendaient la nation étaient des opposants politiques au régime en place, désormais, ce sont les porte-parole des intérêts de leur propre État national. C'est la raison pour laquelle la tonalité progressiste des discours sur la nation antérieure à 1848 s'efface au profit d'une argumentation aux accents nettement conservateurs. Vous me concéderez certainement ce point dans le cas des historiens allemands. Il est bien connu que pour justifier l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la Prusse, des historiens comme Mommsen ou Strauss ont mobilisé des arguments empruntés au principe des nationalités, affirmant notamment que l'Alsace était allemande parce qu'on y parlait un dialecte germanique. Néanmoins, leur raisonnement est mis au service d'un régime qui reste fondé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le principe dynastique. C'est pourquoi ces historiens n'évoquent jamais cet autre argument essentiel du principe des nationalités, à savoir le sentiment d'appartenance à la nation ou le vouloir vivre ensemble. Ces historiens sont donc de fidèles serviteurs de la conception monarchique du pouvoir. L'Alsace-Lorraine faisait partie autrefois du patrimoine de l'empereur, il est donc normal, à leurs yeux, que ce dernier reprenne possession de son bien. Dans les réponses qu'il adresse à ses deux éminents collègues pour contester l'annexion des provinces de l'Est, puis dans sa fameuse conférence faite à la Sorbonne en 1882, Ernest Renan insiste au contraire sur la dimension démocratique du principe des nationalités, en affirmant qu'en dernier recours, ce sont les Alsaciens-Lorrains qui doivent décider de leur sort. Néanmoins, ce qu'on oublie souvent quand on parle de cette conférence en France, si l'on compare sa définition de la nation avec celle de Michelet, l'inflexion conservatrice est indéniable. Selon Renan, le critère qui fonde l'appartenance nationale est, je cite, « un principe spirituel qui nécessite deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. » Fermez les guillemets. Et pour que les choses soient bien claires, Renan ajoute, je cite, « Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. » Dans cette perspective, vous voyez bien que seuls ceux qui partagent la même origine peuvent manifester la volonté commune de vivre ensemble. Nous verrons plus loin les conséquences de ce raisonnement sur le droit français de la nationalité élaboré au cours de la même période. Notons pour le moment que chez Renan, la nation est fondée sur un principe de permanence, de continuité à travers le temps, alors que chez Michelet, la personnalité de la France reposait sur une dialectique du progrès, dialectique révolutionnaire, on peut dire. Pour lui, Michelet, c'est la lutte de la raison contre les traditions, la lutte de la ville-lumière, Paris, contre les provinces, qui a permis l'avènement de la nation française. C'est la raison pour laquelle Michelet n'aurait jamais pu évoquer nos ancêtres les Gaulois. À propos de la Bretagne bretonnante, il écrit même qu'elle est devenue au XIXe siècle, je cite, « un pays tout étranger au nôtre, justement parce qu'il est resté trop fidèle à notre État primitif, peu français tant il est gaulois. » La redéfinition de la nation proposée par Renan, vous voyez, qui est complètement, à mon avis, en opposition par rapport à Michelet, alors qu'on, par la suite, on a tenté de rétablir une continuité dans cette historiographie, la redéfinition de Renan, à mes yeux, va profondément marquer l'historiographie républicaine, pratiquement jusque dans les dernières décennies. Elle contribue à instiller l'idée que la nation française est achevée, que ses forces vives appartiennent au monde rural. Il faudra attendre longtemps pour que ces préjugés soient dépassés et que les historiens commencent à étudier vraiment le monde industriel et l'immigration. On peut également estimer que Renan a joué un grand rôle dans la place écrasante faite à l'histoire mémoire, au détriment de l'histoire savoir, pour ce qui concerne tout au moins l'étude de la question nationale. Lorsqu'il affirme, je cite, « l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses », Renan pense au massacre de la Saint-Barthélemy, hein. Il invite les historiens, finalement, à se détourner des objets d'études trop conflictuels. C'est sans doute l'une des raisons qui explique les réticences de l'historiographie républicaine face au drame de la commune, de la colonisation ou de la xénophobie, qui sont aussi des réalités de l'histoire française. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la question du droit de la nationalité. C'est un point, à mes yeux, extrêmement important, car la distinction juridique et administrative très stricte entre les nationaux et les étrangers marque, tout au moins sur le plan institutionnel, l'achèvement du processus de construction de la nation moderne. Comme le montre parfaitement le langage, le droit de la nationalité consacre officiellement les rapports étroits qu'entretiennent désormais la nation et l'État. En français, le mot « nationalité », qui jusque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisait surtout partie du vocabulaire littéraire, utilisé par les écrivains, les historiens, pour désigner les critères historiques, culturels ou subjectifs d'appartenance à la nation, le terme « nationalité », donc, est intégré, dans les années 1880, au vocabulaire juridique pour désigner l'appartenance à l'État. Quand aujourd'hui nous parlons de code de la nationalité, eh bien ce terme de nationalité, il renvoie à cette notion d'appartenance à l'État et non pas d'appartenance à la nation. C'est un point sur lequel les juristes, si vous voulez, insistent beaucoup, mais ils ne sont pas toujours entendus. Comme vous le savez, le mot nationalité a conservé jusqu'aujourd'hui cette ambiguïté sémantique, évoquant à la fois l'attachement à la nation et à l'État. Cette ambiguïté, même dans les définitions du dictionnaire, on la rencontre. Cette confusion s'explique bien sûr par le fait que désormais, l'État est au service du peuple tout entier. Ce n'est pas un hasard si la législation française sur la nationalité commence à être élaborée dans les années 1880, c'est-à-dire au moment même où l'Europe est traversée par la première crise profonde du système capitaliste qu'on appelle la Grande Dépression. Les dirigeants, jusque-là plutôt favorables au libéralisme, découvrent que l'intensification des échanges, l'urbanisation, l'extension du salariat privent de plus en plus les classes populaires des moyens traditionnels de protection dont elles disposaient auparavant dans les sociétés rurales. Dans ces conditions, c'est l'État qui doit résoudre les problèmes liés au chômage, à la misère, etc., en mettant en place une législation sociale de plus en plus perfectionnée. Mais chaque État ne veut prendre en charge que ses pauvres. Dès lors, le problème de l'appartenance à l'État devient un enjeu de première importance. Dans le cas français, la question est d'autant plus cruciale que la stagnation de la population, les difficultés que rencontre le patronat pour trouver des ouvriers dans l'industrie lourde en plein essor, nécessitent un recours massif à l'immigration. Distinguer rigoureusement les Français des étrangers devient un moyen supplémentaire que le gouvernement utilise pour résoudre les problèmes du marché du travail. Un dispositif juridico-administratif de plus en plus sophistiqué est mis progressivement en place, visant à confiner les immigrants dans les secteurs d'activité les plus dévalorisés. Si aujourd'hui encore 7 millions d'emplois sont partiellement ou totalement interdits aux étrangers non communautaires, ce qui met la France à un rang très très bas au niveau européen, c'est en application de cette stratégie de protection nationale inventée dès le début de la Troisième République. Si la question de l'appartenance nationale a été au centre de la stratégie républicaine, c'est aussi parce que la République, conformément à ses idéaux, a rejeté, tout au moins dans l'Hexagone, je ne peux pas ici aborder la question coloniale qui nécessiterait une autre conférence, je dirais, mais si je me limite à l'Hexagone, il est certain que cette importance accordée à l'appartenance nationale est liée aussi au fait que les autres formes de discrimination fondées sur la religion, l'origine ethnique, ont été rejetées par la République. De même, la suppression des corporations, la faiblesse institutionnelle des entités locales, régionales, ne permettaient pas aux citoyens d'utiliser ce type de barrière pour protéger leurs intérêts, comme cela était le cas dans un grand nombre d'autres pays. Du coup, sans que la chose ait été programmée au départ, les dirigeants de la Troisième République vont exploiter au maximum le clivage entre nationaux et étrangers. Je pense même que nous avons là un facteur important pour comprendre la réussite du compromis politique qui va permettre au parti radical de se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin des années 30, enracinant de ce fait la République dans l'histoire et la société française. L'affaire Dreyfus constitue à mes yeux la dimension politique d'une crise qui est aussi économique et sociale. La base électorale qui a permis à la Troisième République de conquérir le pouvoir était essentiellement constituée de petits propriétaires, artisans, commerçants et surtout paysans. Or, la deuxième industrialisation, fondée sur l'industrie lourde, qui démarre dans les dernières années du XIXe siècle, condamne à terme une grande partie de ceux-ci, car son développement nécessite de transformer en ouvriers des centaines de milliers de paysans et d'artisans. Pour atténuer ces tensions et fournir aux grandes usines les prolétaires dont elles ont besoin, le recours massif à l'immigration apparaît très vite comme une solution indispensable, ce qui permettra de préserver les intérêts des classes moyennes sans nuire au développement du capitalisme industriel jusqu'à la crise des années 30 qui marque une modification profonde de cette logique et le début, disons, d'une reconnaissance du fait industriel dans le cadre français. C'est un point sur lequel je pourrais également revenir tout à l'heure dans la discussion. Mais je voudrais insister sur un autre point qui explique aussi pourquoi la question de l'appartenance est devenue, de l'appartenance à l'État est devenue aussi importante après 1870. À partir de cette époque, en effet, le fait d'être français donne directement accès à la citoyenneté, pour les hommes en tout cas. Désormais, le sort de la nation est donc vraiment entre les mains du peuple. Du coup, la question des critères d'attribution de la nationalité devient un enjeu politique fondamental. C'est ce nouveau contexte qui explique le succès considérable de la définition de la nation proposée par Renan en 1882. Le plus important, à mes yeux, c'est l'étroite articulation qui est alors établie entre la loyauté à la famille, les ancêtres, et la loyauté à la nation. Pour tous ceux qui sont nés de pères français, le problème de leur sentiment d'appartenance ne se pose pas, car on considère que ce sentiment va de soi. Mais ceux qui sont nés de parents étrangers sont suspectés d'être restés fidèles à leur ancienne patrie. Il faut donc qu'ils donnent des preuves de leur attachement à la nation. Cette logique explique, à mes yeux, les contradictions du droit français sur la nationalité depuis la loi de 1889 jusqu'aujourd'hui. D'un côté, les déficits démographiques ont justifié la place importante faite au droit du sol, grâce auquel des millions d'immigrants ont été intégrés dans la nation depuis un siècle. Mais d'un autre côté, les Français d'origine étrangère vont être, pendant très longtemps, considérés comme des citoyens, disons, de seconde zone, sommés par la République de fournir constamment des preuves de leur attachement à la nation. Cette logique explique les discriminations juridiques que subiront les Français issus de l'immigration. Je pense par exemple aux naturalisés qui, depuis 1889 jusqu'au début des années 1980, auront des formes de discrimination, enfin les nouveaux naturalisés, pour un laps de temps, en général 10 ans, considérés comme nécessaires pour qu'ils deviennent totalement intégrés dans la société française. C'est un point qui a d'ailleurs été jusqu'ici peu étudié par les historiens, mais qui me paraît très important, parce que je crois que nous avons là l'une des deux failles, l'autre étant liée au problème colonial, mais je ne peux pas l'aborder ici, de la tradition républicaine que le régime de Vichy exploitera pour légitimer sa politique antisémite et xénophobe. La législation sur la nationalité, élaborée en Allemagne au cours de la même période, a elle aussi pour principal objectif de défendre l'intérêt national. Mais comparé à la France, le contexte est très différent. Pour faciliter sa politique de germanisation, le pouvoir impérial veut affaiblir la minorité d'origine polonaise en empêchant l'immigration des Polonais vivant dans les pays voisins et en leur interdisant de devenir des ressortissants du Reich. Inversement, les gouvernants veulent garder des liens étroits avec les communautés de langue allemande dispersées dans toute l'Europe et en Amérique. C'est pour atteindre ces objectifs qu'en 1913 est adoptée la loi d'Elbruck sur la nationalité allemande, qui restera en vigueur jusqu'à la fin du XXe siècle. Elle vient juste de changer, comme vous le savez sans doute. Cette loi illustre une forme de jonction entre l'État et la nation, très différente de celle qui a triomphé en France, puisque, dans le cas allemand, eh bien, l'appartenance à la nation est fondée sur le jus sanguinis, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut être de parents ou d'ancêtres allemands pour, ou il fallait, on parlait à l'imparfait aujourd'hui, pour être considéré comme véritablement allemand. Il faudrait, pour être complet, évidemment, évoquer bien d'autres exemples de modalités d'attachement entre l'État et la nation, parce que les deux cas que j'ai présentés, le cas allemand et le cas français, ne sont pas évidemment significatifs. Il y a, je crois, une sorte d'exception française qui est liée à la Révolution, de nation centralisée, homogène, qui n'est pas du tout la règle et qui n'est pas du tout la norme, et qui fait que très souvent les Français ont du mal à comprendre d'autres formes d'organisation. Je pense par exemple à des systèmes fédéraux, c'est le cas de l'Allemagne ou des États-Unis, mais aussi des systèmes où il y a la reconnaissance de plusieurs nations à l'intérieur d'une nation. C'est le cas par exemple du Canada, où le Québec peut être reconnu comme une nation, alors même que les pouvoirs publics essayent de conforter une identité nationale plus large, l'identité canadienne, si vous voulez. Le temps passant horriblement vite, je suis contraint d'en arriver à ma conclusion, avec quelques éléments intéressants à dire sur le cas soviétique, si vous voulez, j'en parlerai un peu tout à l'heure, puisque c'est le seul cas, l'un des rares cas que nous ayons, justement, de tentative délibérée de ne pas construire un système autour de l'État-nation, mais de dépasser ce stade. Et l'expérience historique de l'URSS nous montre que, finalement, eh bien, ça a été un échec. Le nationalisme a eu raison du communisme. Et donc, il y a là des leçons intéressantes à étudier. Nous avons un grand nombre de travaux, beaucoup d'ailleurs de travaux faits par des chercheurs américains, qui éclairent singulièrement bien ce processus. Donc, j'en arrive maintenant à ma conclusion. Je souhaiterais insister tout particulièrement sur deux points. Premièrement, il me paraît nécessaire de souligner que la réflexion que j'ai esquissée devant vous sur la construction historique de la nation a privilégié les exemples réussis, c'est-à-dire les communautés qui sont parvenues à se faire reconnaître officiellement comme des États-nations. Mais n'oublions pas que cette réussite s'est faite au détriment d'autres communautés qui subsistent parfois aujourd'hui encore à l'état de minorités souvent opprimées, je pense par exemple aux Kurdes, ou qui, et c'est le cas le plus fréquent, ont tout simplement disparu de la scène historique. Bien que toute évaluation soit difficile en la matière, l'anthropologue Ernest Gellner estimait que sur l'ensemble des communautés qui auraient pu, légitimement, devenir des nations indépendantes, 1/10 seulement était parvenue au terme du processus. Deuxièmement, je voudrais rappeler que si l'on examine l'évolution des sociétés humaines en très longue durée, il est évident que la nation doit être considérée comme une forme transitoire d'organisation sociale. Invention récente, puisqu'elle n'est apparue qu'au XVIIIe siècle, la nation, tout au moins sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, est sans doute appelée à disparaître à plus ou moins long terme. La construction européenne, qu'elle prenne une forme fédérale ou non, mais surtout la mondialisation des échanges, sont des facteurs incontestables qui traduisent ce déclin de la forme nationale. Mais pour en revenir à mon point de départ, je dirais à nouveau qu'à mes yeux, l'historien n'a pas à déplorer ni à justifier les transformations qu'il constate à ce niveau. Certains individus en bénéficient, alors que d'autres en sont les victimes. Tout jugement de valeur sur la question nationale serait donc une manière de prendre parti pour les uns contre les autres, en sortant des limites de la réflexion proprement historique. Mais en disant cela, je n'affirme pas que l'historien devrait renoncer à sa fonction sociale. On dit parfois que l'inconscient d'une société, c'est son histoire. Si cette remarque est vraie, ce que je suis porté à croire, alors la recherche historique peut avoir une utilité comparable à celle de la psychanalyse. en mettant au jour les traces inconscientes de notre passé national, les traumatismes, les fantasmes, les blessures narcissiques qu'il a imprimées en nous, l'histoire peut contribuer à dépassionner le débat public sur la nation, donnant ainsi aux citoyens les moyens d'affronter plus sereinement les défis du présent et de l'avenir. Je vous remercie.
Je crois qu'il y a une petite inexactitude dans votre exposé, et je vais vous dire pourquoi il m'est important de le relever. Je suis allemand, et je me reconnais rarement dans la définition que les Français donnent du problème de nationalité pour les Allemands. En l'occurrence, les Français ont fait une traduction abusive de la notion de Saint-Empire romain, qu'ils appellent le Saint-Empire romain germanique. Pour les Allemands, il ne s'est jamais appelé comme ça, on l'a toujours appelé le Saint-Empire romain. Et dans ce Saint-Empire romain, au XVIe siècle, du côté des républiques, des monarchies, des épiscopats, etc., qui faisaient l'unité, quelque part une unité des ensembles des pays allemands, je rappelle donc qu'il y a des républiques à l'intérieur, de même qu'il y avait des épiscopats, dans cet univers, il y a eu une fraction, une scission religieuse entre protestants et catholiques. Et depuis cette époque, les gouvernements autrichiens de cet ensemble nordique ou non italien du Saint-Empire romain l'ont appelé le Saint-Empire romain de nation allemande. Et jamais il a été dit germanique. Le mot nation est officiellement dans le langage des Allemands depuis le XVIe siècle pour désigner une unité qui n'est pas une unité linguistique, mais qui est une unité politique. Elle n'est pas linguistique, car à l'époque, un bas-saxon considérait qu'il parlait un autre langage qu'un bavarois ou un alsacien ou un essois.
Oui, ça ne me semble pas contradictoire avec ce que j'ai dit, puisque tout le problème du début du XIXe siècle, notamment chez Friedrich Jahn, c'est le passage de nation à folk, c'est la germanisation d'un vocabulaire fondé sur nation qui avait été justement approprié suite à la Révolution française par les intellectuels allemands, qui est décisif dans ce basculement qui se produit à ce moment-là autour de la notion de folk, Volkstum, etc.
Je voudrais revenir à l'exception française, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Et comment cette exception française, dans le cadre de l'Union européenne, s'adapte aux accords de Schengen qui permettent la libre circulation des ressortissants des États membres, et ça leur permet de vivre notamment en France, parce que qui dit exception française ne nie pas fermeture d'esprit. Il va falloir que les esprits soient un petit peu plus ouverts ici.
Je crois que, pour en avoir d'ailleurs parlé à plusieurs reprises avec des hauts fonctionnaires en charge de ces problèmes-là, c'est peut-être l'un des domaines les plus difficiles, vous savez, pour la construction de l'Europe, d'homogénéiser ces notions. Justement parce que nous les avons tous intériorisés, et je parlais d'exception française, mais je pense que les Britanniques pourraient parler aussi d'exception britannique et ainsi de suite. Et effectivement, alors, Schengen, si vous voulez, c'est un accord qui est un accord de police au départ, hein, c'est-à-dire de constituer un espace de circulation. Donc c'est une logique étatique, on pourrait dire, qui a nécessité beaucoup d'accords, beaucoup de discussions et nécessité de résoudre pas mal de problèmes liés aux différentes formes d'administration, mais je pense que ça n'atteint pas le niveau de la nationalité, c'est-à-dire de la définition de l'appartenance à une entité globale qu'on appellerait l'Europe. Je crois que pour en arriver à ce niveau-là, ce sera beaucoup plus compliqué. On le voit aujourd'hui avec le débat autour des propositions du ministre des Affaires étrangères allemande pour relancer le processus de construction européenne. Je crois donc que c'est ce qui fait que très souvent l'Europe avance par sa logique administrative, c'est-à-dire des questions qu'on peut peut-être plus facilement régler au sein d'instances bureaucratisées et qui ne mettent pas en cause les formes d'identification collective ou les représentations historiques que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, je pense, moi, qu'on peut le déplorer. D'ailleurs, dans un de mes ouvrages consacrés à l'histoire du droit d'asile, qui est paru au début des années 90, j'avais conclu justement par Schengen, c'était très nouveau à l'époque, et des effets sur le droit d'asile, c'est-à-dire une sorte de contradiction entre une logique européenne extrêmement restrictive du point de vue des libertés, pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'espace Schengen, hein, est une culture, une tradition européenne qui finalement a joué un rôle très important dans la définition même du droit d'asile.
La langue dans laquelle vous vous exprimez et que nous comprenons est la langue française. Elle n'est pas tombée du ciel à un moment donné de l'histoire. C'est le produit d'une longue élaboration de nombreux siècles par une population homogène et stabilisée à un endroit bien précis, géographiquement parlant. Et ceci constitue un patrimoine, quelque chose de précieux, qui, parce que ça a mis tant de temps à s'élaborer. Et de nos jours, nous pouvons jeter ça par-dessus bord, adopter l'anglais, simplement parce qu'il y a des autorités qui peuvent le faire, utilisant les moyens de communication modernes, on peut très bien se contenter de l'anglais, la langue française n'est nullement utile, on peut s'en passer. De même, pour ce qui est des chansons, la Madelon, ça ferait rire les jeunes de maintenant qui écoutent des chansons anglo-américaines. Et puis, qu'il y ait des gens qui parlent le français à Bruxelles, à Lausanne, à Genève, à Turin, à Pignerol, etc., ce ne sont pas des Français puisqu'ils sont en dehors des frontières, ou ceux de Montréal. Eh bien, vous voyez qu'il y a un immense arbitraire qui règne dans la notion de nation et qui fait fi de tout un patrimoine accumulé pendant souvent plus d'un millénaire. Alors, il faut comprendre dans ces conditions qu'il puisse y avoir des réactions de la part de peuples, de gens qui se sentent constituer une homogénéité et porteurs de tout un passé qu'ils veulent transmettre à leurs enfants et que, à ce moment-là, le fait de se trouver entouré majoritairement par des gens d'autres porteurs d'autres patrimoines, eh bien, c'est une atteinte. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, dans ce cas-là, on leur applique le terme de xénophobe et que, dans votre langage qui se veut objectif, eh bien, vous faites quand même passer le message qu'être xénophobe, c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que vous portez un jugement de valeur. Alors, expliquez-vous, s'il vous plaît.
Oui, ben, je vous remercie finalement parce que vous allez me donner l'occasion de préciser un point de mon exposé, qui est un point pour moi très important. Si vous voulez, c'est le problème finalement de la définition de ce qu'on pourrait appeler l'objectivité de la recherche scientifique et de ses limites. Nous savons tous que l'objectivité, justement, c'est un idéal vers lequel on peut tendre, surtout en histoire, mais qui n'est pas absolu. Ceci dit, nous vivons sous des lois en tant qu'historiens et nous devons respecter ces lois. Ces lois, elles sont fondées sur des principes démocratiques que nous avons à respecter. Et parmi ces lois, il y a justement le fait que la xénophobie est condamnable. Elle est condamnable par les lois. Donc un historien qui aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, trouverait que la xénophobie est une bonne chose, je pense qu'il ne pourrait pas avoir sa place dans l'université française, simplement parce que c'est contraire à nos lois. Donc, je vous laisse la responsabilité de ce que vous pouvez dire par ailleurs, à ce niveau-là.
Oui, j'ai un problème avec... J'ai l'impression de ne pas être le seul avec la notion de nation. Je veux dire par là, quand on parle de nation arabe, par exemple, c'est quoi? Quand on parle de... Enfin, les Belges, c'est quoi leur nationalité? Je veux dire par là, pas leur nationalité, mais leur nation. Est-ce que le Luxembourg ou le Vatican, c'est une nation? Quand on est texan, la nation, c'est quoi? C'est les États-Unis? C'est le Texas? J'ai vraiment un problème, et apparemment, je ne suis pas le seul. Je crois pas que la nation ça existe. Je crois que c'est un concept inventé pour des raisons politiques et absolument factice.
Oui, il est vrai que, comment dirais-je, on revient à ce que je disais tout à l'heure, en histoire, je dirais particulièrement dans ce domaine, ou plus généralement dans les sciences sociales, il n'y a jamais de définition absolument objective qui fasse consensus. Hein. Et il est vrai, mais ce n'est pas vrai uniquement pour le mot nation, mais c'est un cas particulièrement, évidemment, flagrant. Il y a des divergences, et les définitions que j'ai proposées ici pour aiguillonner mon exposé ne sont pas partagées par tous. Simplement, je crois malgré tout que presque toujours, chez les gens qui vont parler de nation, il y a une idée qui peut être explicite ou implicite, mais de groupes ayant un certain nombre de points communs, mais qui aspirent à l'indépendance. Le terme nation ajoute par rapport à ethnie, région, etc., cette dimension supplémentaire de mobilisation politique. Donc on peut le prendre dans ce sens-là. Et puis après, évidemment, il y a le problème des jugements de valeur. Si vous voulez, je pense qu'il y a une infinité, comme j'ai essayé de le montrer, à la limite, une infinité de principes qu'on peut mobiliser pour dire le groupe auquel j'appartiens est une vraie nation. C'est un des enjeux de lutte. Moi, si vous voulez, ce que je pense, il faut faire très attention, parce que j'ai essayé de montrer dans mon exposé que justement les historiens ont été constamment sollicités pour, vous voyez, distribuer les bons et les mauvais points. Hein. Et je pense que justement le progrès de la démocratie aujourd'hui, c'est que nous nous tenons à distance, c'est-à-dire que nous essayons de prendre une distance pour éclairer les enjeux et ne pas nous prononcer à la place des citoyens. Parce que très souvent, quand on parle du peuple, le chercheur a tendance à dire « qui parle au nom du peuple ?» Hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a derrière tout ça très souvent des formes de manipulation de l'opinion. Hein. Et donc, en tant que citoyen, moi je peux effectivement avoir une idée là-dessus, mais je n'irai pas me prononcer, je vous le dis franchement, pour savoir si, dans une sorte de classification, je veux dire, on a vu que ça avait été un des chevaux de bataille des marxistes, hein, disant est-ce que le Luxembourg est ou n'est pas une nation. Je laisse aux luxembourgeois le soin de se décider par rapport à cela, si vous voulez. Mais je conçois tout à fait qu'il y ait là un enjeu et que beaucoup de personnes estiment aujourd'hui que la nation est une pure construction idéologique. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça a des effets sociaux. Je pense que les liens avec l'État et toute l'importance de l'État-nation, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger, sinon on ne peut plus comprendre après des phénomènes comme l'immigration, par exemple. Hein. Donc je pense qu'il faut aussi être appréhendé, enfin, au niveau de la recherche en tout cas, ces questions-là dans leur matérialité, dans leur côté institutionnel, administratif, très fort, sans pour autant, évidemment, cautionner les représentations. Mais c'est extrêmement difficile parce que, vous savez, c'est l'un des meilleurs exemples où, dès qu'on dit une nation, c'est cela, eh bien, même si on ne le veut pas, c'est pris comme un jugement de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a énormément, y compris chez les chercheurs, de gens qui restent à distance et qui préfèrent effectivement envisager la nation comme sous l'angle des constructions, des représentations.
À la fin de votre exposé, vous parliez de la fin de la nation et vous avez cité l'Europe. Mais est-ce que c'est une hérésie de parler de nation européenne ?
Oui, c'est pourquoi j'ai un peu nuancé mon propos en disant sous la forme que nous lui connaissions jusqu'ici, parce que évidemment, on peut très bien imaginer que l'Europe puisse... Moi, je pense que ça ne peut pas se faire immédiatement et que malheureusement, nous ne le verrons certainement pas, puisse prendre la forme d'une nation. Mais en même temps, ce qui me... Mais là, je sors un petit peu de mes compétences d'historien. Ce qui me rend quand même un peu dubitatif, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui confrontés à un processus de mondialisation en même temps. C'est-à-dire que les références, elles sont... on ne peut pas avoir un système de référence européenne qui serait relativement unifié, homogène, comme a pu l'être la référence à la nation à un moment où même les progrès techniques étaient encore relativement limités. Moi, je dis souvent que le progrès technique qui correspond parfaitement à l'âge des nations, c'est le chemin de fer, si vous voulez. Ça correspond tout à fait à l'âge des chemins de fer. L'avion est déjà un mode technique, de développement technique qui est supranational. C'est très, 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 très lié aussi à ces questions-là. Alors, à l'âge d'Internet, etc., je veux dire, je pense que les formes mêmes seront tout à fait différentes, mais qu'elles peuvent être beaucoup plus symboliques aussi. Je pense que le poids du symbolique risque d'être beaucoup plus grand à l'avenir. Parce qu'il faut bien dire aussi que l'âge des nations, ça a été, la plupart du temps, malheureusement, l'âge des guerres. L'âge des guerres, vous savez, pour les peuples européens, les Français, les Allemands notamment, eh bien, la nation s'est construite aussi en même temps que trois guerres, notamment deux guerres mondiales qui ont été vécues dans la chair des personnes. Donc ça ancre la réalité nationale très profondément dans l'esprit, le psychisme, je dirais, des personnes. Pour nous, les gens qui ont la chance de vivre dans des pays relativement pacifiés, qui espèrent que cette paix restera longtemps, eh bien, il y a une logique d'appartenance, de sentiment d'appartenance qui est plus symbolique, qui est beaucoup aujourd'hui médiatisée par le sport. Vous avez, par exemple, le grand sociologue Norbert Elias qui a montré ce processus de passage de réalité ancrée dans des guerres au sport. Comment le sport aujourd'hui jouait un petit peu ce rôle d'exutoire pour les formes d'appartenance. Donc on pourra imaginer peut-être par la suite une nation européenne de ce type-là, mais elle ne ressemblera pas, à mon avis, à celle que nous avons connue dans le passé.
Vous avez dit justement que votre domaine de recherche, c'est la État-nation. Je voulais, si vous voulez, dire un mot sur l'expression par rapport à tout ce que vous avez dit ce soir. Deuxième petite chose, vous avez presque soigneusement évité le problème colonial. Je suis obligé de vous y amener. En vous demandant, qu'est-ce que vous savez bien que à Berlin en 1885, malheureusement, on a fait les pays africains au crayon rectiligne, traçant comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas la seule cause. L'une des raisons pour lesquelles ces pays se déchirent, n'arrivent pas à se faire, ça tient à cela. Ce que souvent, ce qu'on appelle le français moyen, ne sait pas, parce que vraiment, ça fait loin et là d'autres problèmes à se faire. Comment vous expliquez, pouvez-vous nous dire un mot là par rapport à la question nation, cette difficulté qu'on a à faire les nations pacifiables en Afrique? Merci.
Je voudrais dire que je ne suis pas personnellement spécialiste de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'Afrique, donc j'ai un petit peu des scrupules à entrer dans ce domaine. Mais ce qu'il est tout à fait important, c'est de souligner effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire que les problèmes que rencontre l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique, c'est-à-dire toutes ces régions qui ont été victimes de l'exploitation européenne, sont aussi des résultats de l'histoire. C'est aussi un point sur lequel j'insiste, c'est la dimension civique de notre discipline. De rappeler constamment, pas pour entretenir une forme de culpabilisation de personnes qui ne vivaient pas à cette époque-là, mais pour comprendre les phénomènes et la difficulté que certains peuples peuvent rencontrer aujourd'hui à dépasser un certain nombre de limites ou d'obstacles qu'on leur a imposés. C'est ce que vous disiez par rapport à ce tracé des frontières, des empires coloniaux qui sont devenus après des nations et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et je pense que par rapport à cela, il y a une dimension de mémoire extrêmement importante qui n'est pas assez enseignée, même au niveau de l'enseignement en France. Moi, j'ai beaucoup milité pour que la place de l'histoire de l'immigration soit plus grande dans les programmes, mais il y a un travail identique à faire par rapport à l'histoire coloniale. C'est un des chantiers, j'ai malheureusement pas pu en parler, mais qui est aujourd'hui en plein renouveau en France. Il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui sont en train d'entreprendre des analyses sur l'histoire coloniale, qui sont peut-être beaucoup plus critiques qu'une certaine vision traditionnelle des choses. Et donc, nous en saurons aussi beaucoup plus par la suite. Mais nous avons déjà beaucoup d'éléments, notamment les travaux des anthropologues, qui montrent effectivement ces réalités, le rôle notamment de l'administration coloniale dans l'inculcation de ces cadres identitaires et de toutes les difficultés qui en ont surgi par la suite. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur la question que le monsieur qui est malheureusement parti a évoqué sur l'homogénéité de la nation française. Vous avez un petit peu évoqué les problèmes justement de l'homogénéisation. Je voudrais aussi qu'on puisse un petit peu rappeler que moi, je parlerais plutôt d'hétérogénéité française, dont on a un peu tendance à oublier justement. Le fait, il n'y a pas longtemps encore, on parlait encore de séparatisme breton, corse, encore actuellement. Je crois que la nation française n'est pas une nation aussi homogène qu'on peut le dire. Il y a une certaine hétérogénéité qui est peut-être renvoyée au domaine privé, mais qui existe encore et qui peut effectivement expliquer, qui peut emmener à une facilité accrue dans une nation européenne ou mondialisée, comme vous disiez, puisque si la France a évolué comme ça, ça a été long, elle peut continuer à évoluer encore plus.
Oui, je ne sais pas si votre question faisait référence aux questions du régionalisme, au problème du régionalisme, mais là aussi, si vous voulez, beaucoup de recherches ont montré que finalement la France n'était pas homogène, mais que les régions n'étaient pas homogènes non plus. C'est-à-dire qu'il y avait eu aussi tout un processus de construction historique des régions. Et donc on a un processus qui est souvent assez comparable entre la construction des nations et la construction des régions, et que, notamment dans le cas français, les deux se renvoient l'un à l'autre. Mais ce qui est important dans ce que vous disiez, c'est effectivement de rester toujours vigilant par rapport à ces notions d'homogénéité, d'unification, etc. Et moi, je plaide, disons, et je crois que l'histoire nous amène à cela, pour la reconnaissance de la pluralité des appartenances. Je crois qu'un grand, un grand progrès, c'est justement la possibilité de s'investir dans des causes, dans des identités différentes, qui ne soient pas d'ailleurs toujours les mêmes. Hein. Ça, c'est un point qui a beaucoup fait défaut dans la logique nationale. La loyauté à la nation était considérée comme quelque chose d'exclusif. Or, il peut y avoir des formes de loyauté combinées, il peut y avoir aussi, selon les moments de votre existence, des investissements dans un domaine ou plutôt dans l'autre. Et ça, c'est un point aussi qui est très important, même par rapport à la recherche, c'est-à-dire quand on essaye de construire, on appelle des catégories, comment on va faire la part entre l'appartenance à la catégorie socio-professionnelle, au genre, homme ou femme, à la nation, etc. C'est un problème qui est extrêmement intéressant aussi d'un point de vue méthodologique. Et je pense qu'il y a aussi, là, au niveau de la recherche, un grand progrès par rapport à une époque où on enfermait les individus dans une nation, dans une classe. Vous voyez, il y avait des catégories pratiquement toutes faites et on raisonnait à partir de ces catégories. Aujourd'hui, on raisonne à partir des individus et on regarde comment les groupes se construisent, se défont, se recomposent, etc. Donc ça va aussi dans le sens de cette diversité que vous évoquez.
Une dernière et rapide question.
Oui, bonsoir, monsieur. Deux tout petits points. D'abord, quid des citoyens qui ne sont pas français, par exemple, je pense aux Berbères et aux Kabyles, etc., qui se sont battus pour aider la France et que la France a laissé dans la news. Et je suis poli. Et quid aussi de la nécessité d'observer les règles de la nation dans laquelle on veut être le citoyen. Parce que je suis désolé, faire des graffitis, pour moi, ce n'est pas appartenir à la nation, quelle qu'elle soit. Merci.
Non, sur les questions que vous posiez étaient des questions directement politiques, donc ça m'est assez difficile, mais simplement, je pense qu'on peut les rattacher à ce que je disais, c'est-à-dire, c'est encore à mettre au passif, c'est-à-dire de notre héritage colonial, ce que vous évoquiez par rapport au drame de la guerre d'Algérie, par rapport aux Berbères, et par rapport, je dirais, il y a tout un débat, vous le savez aujourd'hui, sur le fait que les drames de la répression coloniale de la guerre d'Algérie ne sont pas encore abordés comme ils devraient l'être par les historiens et ne sont pas encore suffisamment au cœur de la mémoire. Donc tout ça fait partie aussi des problèmes à la fois civiques, mais aussi des problèmes de la recherche historique que nous devons appréhender.